France Inter. .fr.
Regardez madame, c'est
un t-shirt.
Allez, allez, allez,
allez.
Entrez la classe.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Il se donne rendez-vous au sortir du virage, après Malmousque. Quand la corniche réapparaît au-dessus du littoral, voie rapide frayée entre terre et mer, lisière d'asphalte. Longue et mince, elle épouse la côte tout autant qu'elle contient la ville, en ceinture les excès, congestionnée à heures de pointe, fluide la nuit, et lumineuse alors, son tracé fluorescent sinue dans les focales des satellites, placés en orbite dans la stratosphère.
Ainsi démarre Corniche Kennedy, le livre. Bonjour Maëlys de Kerangal.
Bonjour.
Ces mots, ce style, cette lumière dont elle a su capter l'élan vital sont devenus des images. Elle, c'est vous. Bonjour Dominique Cabrera.
Bonjour.
Corniche Kennedy, votre film sort mercredi prochain. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et tous.
Heureux, oui, nous le sommes et c'est une première d'avoir l'auteur et la cinéaste ensemble avec nous ce matin. Comment s'emparer d'un livre, se l'approprier, lui faire des infidélités pour mieux en restituer les fragrances et les fulgurances? Corniche Kennedy, Les Petits Cons, La Bande, Le Temps d'un été à Marseille, voilà, voilà. Maëlys de Kerangal et Dominique Cabrera sont nos deux invités. Encore une drôle de semaine de sortie entre le lourd et le futile, le biopic et l'adolescence, les demandeurs d'asile ou le mélo dans une ONG. Bref, avec le cinéma, tout est possible. Il n'était peut-être pas connu du grand public, mais il était très cher à notre cœur. Jean Hernandez est parti cette semaine et pourtant, ce grand public, comme on dit, pourrait le remercier d'avoir découvert comme distributeur et programmateur des bijoux et des auteurs comme Kusturica, Almodovar, Wong Kar-wai, Zaginsev et tant d'autres. Jean Hernandez adorait le cinéma et le défendait avec acharnement et passion. Des dîners avec lui ressemblaient aux plus belles scènes d'amitié de bistrot chez Claude Sautet, un grand personnage de fiction certes, mais surtout un humain magnifique et ensoleillé. On embrasse sa compagne Laurence et cette émission lui est dédiée. Maëlys de Kerangal, j'aime beaucoup les phrases d'exergue des livres. Voici la vôtre pour Corniche Kennedy. Quand on est au bal, il faut danser. Si ça, c'est pas une belle métaphore du plongeon...
Oui, c'est une métaphore de la vie aussi. Hein.
Oui.
Quand on est vivant, il faut vivre. Enfin.
C'est important parce que ça donne la première note d'un livre, hein, cette phrase d'exergue.
Oui, alors on hésite toujours à placer comme ça la lecture sous le vocable, enfin, à la faire passer vraiment par le filtre d'une phrase comme ça, surtout qu'elle est placée au début. Mais là, je trouvais que c'était comme une espèce d'élan, enfin, que cette phrase, elle allait élancer le livre.
Moi, je la connaissais sous la forme « Ici est la rose, ici tu dois danser
». Ouais. Exact.
Hein, ouais.
Et Dominique Cabrera, c'est une phrase qui vous a aussi projeté dans l'histoire.
Oui, toutes les phrases m'ont projeté dans l'histoire. Celle-là, mais la danse, c'est le plongeon. D'ailleurs, quand les petits plongent, ils dansent.
Ouais. Hein. Et sous l'eau aussi. Oui, il y a beaucoup de scènes sous l'eau de danse.
Nous entrerons en musique dans le film Corniche Kennedy avec un morceau de votre BO dont les paroles, je pense que ça va vous faire plaisir, sont signées Kamel Kadri, musicien et acteur de votre film. Et la musique, elle, est composée par Imhotep, Lettre à Belize.
Trop de fois je sers
à deux doigts de gagner comme un boxeur. Qui a perdu sa mille fait sa serrette à cause des coups qu'il a pris dans le Vosaire. Oui, des fois je sers seul. Au sol y'a des hommes en blanc. Qu'attendas-tu du champion? Mais bon, pas le temps, on étudie le terrain. Ce soir j'irai voir Aya pour bavarder un peu de la vie. Trouver de l'envie dans ce monde à part, dans les paroles de mon vrai ami. Demain je me dis faux dessert. Mes nerfs, j'aurai rien en main. Rien normal, ouais je suis bien. Donc je peux prendre que plus au final. Trop de fois je sers. Trop de fois je gamberge à me tailler. Je voudrais nous caler, prendre un autre air avant que notre air arrive pour nous canner. Trop de fois je sers. Trop de fois je gamberge à me tailler. Je voudrais nous caler, prendre un autre air avant que notre air arrive pour nous caler. J'ai mal, je gamberge, au final je vais batailler. Retrouver ma force sur cette belle plage. J'irai plonger pour détourner cette peur du mandat. Je ferai le tour de ma ville. Comme chaque soir y'a des problèmes, bon, j'en ai marre de voir les mêmes scènes. Groupés qui traînent face à l'homme qui boit tout le temps. Je vois les mêmes scènes, des choses obscènes dans les rues de Marseille. Tu peux fracasser plus qu'une dent. Je me torture sur mes 20 ans. Alors que la vie elle est moins dure. Et c'est juste que j'ai peu d'altitude. Et que comme tout le monde je me torture dans la verdure. Oh oui, plus rien me perturbe. Car j'ai perdu du monde. Oh. Et conscient que la vie est dure, je marcherai avec un calibre dans mon dos. Trop de fois je sers. Trop de fois je gamberge à me tailler. Je voudrais nous caler, prendre un autre air avant que notre air arrive pour nous canner. Trop de fois je sers. Trop de fois je sers. Trop de fois je gamberge à me tailler. Je voudrais nous caler, prendre un autre air avant que notre air arrive pour nous canner.
Dominique Cabrera, vous disiez, c'est dingue que cette
oui,
chanson passe sur Inter.
C'est magnifique. C'est-à-dire que cette chanson existe maintenant, au fond, grâce au film. Elle est là grâce au film,
ouais,
en fait. Voilà, Kamel, je l'ai rencontré sur la corniche quand j'étais là à me balader en essayant de comprendre d'où je pouvais faire, d'où je pouvais filmer les sauts des petits que Mélisse avait décrit dans son livre. Et un jour, je vois un petit groupe, là, comme ça, celui qui est sur la corniche, je m'approche en les photographiant. Ils me disent non, pas de photo, et c'était Kamel dont vous venez d'entendre
incroyable,
la chanson.
Incroyable, ouais.
Oui, c'est
ouais,
magnifique.
C'est boucle,
quand même
bouclée,
un
ouais,
énorme trajet, quoi. Voilà, on l'a fait, ce trajet.
On va raconter.
Il
en...
l'a fait.
Ouais, on va raconter en deux mots et avec vos mots d'ailleurs, ce film Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mama, Julie, filles et garçons plongent, s'envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic, leur corps libre, leurs excès, elle veut en être, elle va en être. Justement, vous vouliez faire un film à Marseille, Dominique Cabrera, et Corniche Kennedy, dites-vous, vous a happé.
Exactement, voilà, c'est exactement ça. J'ai lu beaucoup de livres, je cherchais une histoire, et un jour je suis tombée sur Corniche Kennedy, et je me suis dit, voilà, c'est un film pour moi. Enfin, c'est un livre qui est une porte d'entrée pour un film pour moi.
Vous avez vu un film dedans tout de suite,
ah,
ou
oui,
pas?
Oui, oui, bah oui. Mais Mélisse a une écriture très cinématographique. Hein. C'est-à-dire, c'est à la fois une écriture poétique, lyrique, et en même temps très documentée, documentaire, avec des citations. On voit se dérouler les choses devant nous, et en même temps, on entre dedans comme dans un tableau, comme dans un dessin. C'est vrai, il y a vraiment une double vitesse, en fait, dans son texte.
Je fais une parenthèse, Maïs de Carangal, quand même, parce que trois romans adaptés, Réparer les vivants qu'à tel qu'il est verré, celui-là avec avec vous, Dominique Cabrera, et un prochain, Naissance d'un pont, avec Julie Gavras. Trois femmes réalisatrices, est-ce un hasard?
Je sais pas. J'ai l'impression que, pour autant, ce sont des histoires qui sont pas forcément des histoires de femmes, mais c'est vrai que c'est des femmes cinéastes qui s'y sont intéressées, les trois.
Vous...
qui y sont parvenus, parce que pour ouais, Corniche Kennedy, il me semble qu'il y a eu beaucoup de réalisateurs qui ont voulu le faire.
Ah.
Oui, alors Corniche Kennedy, mais c'était des femmes aussi.
Ah, c'était des femmes aussi.
Combat de femmes, on appelle ça.
Non, voilà. C'est vrai, c'était des femmes, ouais.
Ah, non, il y avait aussi des hommes sur Réparer les vivants.
Ah, hein. Pardon, oui,
pour Réparer les vivants.
Corniche Kennedy, c'était des femmes, si je me souviens bien. Mais pour Réparer les vivants, oui, il y avait des hommes. Et des
alors qu'il n'y a pas d'écriture féminine.
Non, alors en plus, il y a des sujets qui sont... l'histoire du pont, c'est un sujet qui pourrait être vu plus technique, plus viril, etc. Et puis peut-être que dans Réparer les vivants, c'est un sujet qui échappe un peu, à mon avis, à des clivages de genre.
Vous êtes en train de devenir l'auteur la plus adaptée de la littérature française actuelle. C'est quand même un statut particulier.
J'en sais rien.
Aussi, c'est clair.
Mais ce qui est vrai, c'est que, enfin, ça me touche beaucoup que le regard du cinéma sur la littérature en général et aussi sur mon travail, je trouve que ça désigne quand même une forme de vitalité aussi qu'il y a dans ces textes, leur capacité à se reconfigurer dans d'autres langages, auprès d'autres artistes, avec d'autres sensibilités. Et ça me... je trouve que c'est assez beau, c'est ouvert.
Et pardon pour ce bémol, mais parfois, quand on a vu un film qui est puissant, on a du mal à retourner au livre derrière.
Oui. Dans les deux sens, hein. Il y a des gens aussi qui sont envoûtés par un livre et qui disent mais moi je pourrais pas voir le film. Après c'est vrai que c'est assez différent dans la mesure où le cinéma est aussi un langage et un art qui a une puissance qui impose beaucoup. Hein. On est d'abord, on le voit souvent dans une salle, on est dans le noir. Et voilà, c'est très incarné, c'est des acteurs.
On est un peu kidnappé, vous voulez dire ?
Oui, enfin, je veux dire par là qu'on peut pas s'en échapper. Un livre, on peut le reposer.
Oui,
le temps de lecture d'un livre, il est souvent beaucoup plus long que le temps de visionnage d'un film. Donc la vie s'infiltre toujours dans le temps de lecture d'un livre. Tandis qu'un film, si on va le voir au cinéma, on est capté, on est rapté quand même pendant un certain temps.
Ce film s'appelle Corniche Kennedy. On va écouter un premier extrait de cette Suzanne, donc cette fille qui observe cette bande de loin et qui va peu à peu se rapprocher.
Écoute, Miss Tonguette, tu peux pas rester là. Ne reste pas, va. C'est mieux pour toi.
J'ai envie de sauter de là-haut. Montre-moi le spot. Tu me montes ?
Tu vas te fracasser, là. En quel honneur ?
C'est toi qui es venu me parler, non ?
Attends, la dernière fois, t'as parlé, t'as pas compris, je crois. Tu peux pas débarquer comme ça, me sortir des... Montre-moi le spot. Nous, on a le droit d'aller dans ta villa, à ton lycée. Je dis pro, Madame Bovary. T'es chez nous, ici.
Qu'est-ce que tu veux ?
Si je te montre là, tu m'embrasses? Dis.
Ça marche.
Les gars,
oui.
La paillette, elle veut que je l'amène sauter.
Eh, lui, non, ça va.
Elle a besoin de nous, ça va.
Laisse-le, elle se jette seule, tiens. Ça me bat les couilles.
Elle est louche en plus, elle est bizarre.
Elle est gentille, ce moment-là.
Elle est gentille, arrête.
Laisse-la s'émerder seule. C'est nous qu'on saute d'ici.
Mais nous, on s'est sauté, elle s'est pas sautée, elle peut sauter là-dessus. Elle se pète en deux,
Elle a signé Haja encore, elle a signé une décharge, je vois comme ça.
Qu'est-ce que tu crois, Madame Bovary ? Ça, c'est pas dans le livre, Maëlys de Carangal.
Non.
C'est ça qui est intéressant. C'est que comment Dominique Cabrera s'est emparé de l'histoire et même a fait dialoguer ces petits de Marseille, ces petits que vous avez rencontrés à Marseille. J'ai l'impression que Marseille, on peut pas lui imposer quoi que ce soit, comme Karim Dridi qui avait récemment y travaillé, et qu'il faut que vous adaptiez à Marseille.
Mais je pense que j'ai adapté le livre, enfin j'ai adapté le scénario, j'ai adapté le livre, j'ai adapté le scénario au protagoniste que j'ai rencontré, c'est-à-dire que c'est toute une espèce de travail d'ajustement perpétuel jusqu'à la fin. Hein. Et en fait, je voulais trouver des jeunes, des quartiers qui soient des plongeurs et les emmener vers le jeu plutôt que l'inverse, parce qu'il y avait là quelque chose que j'adorais dans la créativité poétique du langage des jeunes des quartiers, quelque chose que je voulais absolument capter, que j'avais lu dans le roman, mais il fallait qu'ils en soient les auteurs. Donc en fait j'ai travaillé dans une sorte d'atelier avec ce petit groupe que j'ai rencontré sur la corniche pour réécrire les dialogues, en fait, pour qu'ils se les approprient, enfin non, pour qu'ils me donnent leur faculté d'invention poétique.
Il y a du cinéma en face aussi, avec une actrice actrice qui est professionnelle, même si elle est très jeune, entre guillemets, Lola Creton. Et puis, il y a encore du cinéma avec un mystère, je veux dire, avec une fiction policière représentée par Aïssa Maïga et ses collègues de la police. Donc, il fallait ajouter, vous êtes documentariste dans l'âme, vous amenez de la vérité dans la fiction, mais ça reste une fiction.
Ah oui, c'est tout à fait une fiction. Ouais. C'est-à-dire que l'histoire qui est racontée n'est pas la vie des jeunes que j'ai filmés. D'ailleurs, c'était vraiment pour eux une histoire. Ils avaient envie de raconter cette histoire. Quand ils ont lu le roman de Mélisse de Kerengal, en même temps, il était proche de leur vie. Ils m'ont dit, un jour ils m'ont convoqué, ils m'ont dit « c'est notre histoire que raconte Mélisse. Hein. » Tu te souviens, Mélisse, c'est notre histoire, on doit jouer dedans. Bon, il fallait les amener au jeu. Là, ça a pris beaucoup de temps et puis ça a été heureux.
Comment vous avez capté la lumière de Marseille, la sensualité des corps Maïs de Kerengal? C'est vrai qu'il y a le livre est là et il est en 3D, quoi.
Oui, alors là, dans l'écriture, voilà, c'était aussi un enjeu de faire exister un espace, en fait. Hein. Oui. C'est aussi moi ce que j'aime tenter dans les fictions, dans les romans que je peux écrire. C'est vraiment que le lieu, le rapport à l'espace conduit la narration. C'est lui le moteur de l'action, en fait. Donc, en fait, la configuration d'un espace, sa lumière, la texture de l'air, sa forme, son relief, toutes les énergies qui s'y trouvent, ben, pour moi, c'est un matériau pour... d'écriture, en fait.
Aucun extérieur, hein.
La corniche. Ouais. Non, mais la corniche, c'est ça qui m'a plu, en fait.
Bah oui.
Et c'est ce que j'ai radicalisé dans le film. C'est-à-dire que le film se passe quasiment uniquement sur la corniche. Ouais. Dans la lumière, du soleil, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre le matin, attendre le soir, venir à une certaine heure, etc. Puisqu'on déplace pas les projecteurs, on se déplace par rapport au projecteur de Dieu, du soleil.
La lumière de Marseille s'est imposée à vous, alors, encore une fois.
Oui, ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé de la capter, hein, c'était magnifique. C'est-à-dire c'est un endroit somptueux, merveilleux. Et c'était l'occasion, et c'est ce que j'ai, en fait, adoré dans le roman, c'est que c'était d'abord l'occasion de filmer des jeunes des quartiers dans une activité où ils excellent, dans un exploit. Ils sont les héros, ils sont les rois de la corniche, et ça, c'est pour des humiliés, des pauvres. C'était une contradiction que je trouvais magnifique, et qui est rarement mise en scène, d'une part, et d'autre part, j'avais l'occasion de faire un film dans un endroit extraordinaire, qu'il est magnifié, qu'il est porté, en fait, parce que cette corniche, elle s'ouvre sur le bleu, sur le ciel, sur l'Afrique, sur le monde, en fait. C'est ça que j'avais l'occasion de faire en adaptant le roman. C'est ce que j'ai vu tout de suite.
Mais on s'étonne même que le cinéma français n'est pas réellement abordé cet endroit. C'est sidérant, à part Melville un petit peu. Dans L'Armée des Ombres, il y a une scène absolument crépusculaire, un peu Guédiguian, mais enfin, on se dit, quel potentiel incroyable.
Il y avait, je crois, Philippe Faucon dans Samia, je crois.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, tout ça reste assez limité, quoi, par rapport à.
C'est vrai, alors que chaque fois qu'on arrive sur la corniche, moi, chaque fois, alors que j'y étais tellement souvent, chaque fois. Oh, c'est beau. Oh, c'est. Et j'avais l'impression d'un privilège merveilleux de pouvoir faire un film là.
Ouais, et puis je trouve
avec ces jeunes.
Il y a aussi l'idée que cette corniche, elle fonctionne aussi comme une espèce de lisière, comme une frontière. Il y a l'idée que c'est une espèce de ligne comme ça qui sépare deux mondes, la loi, la ville, les hommes, et puis cet univers des pulsions, de la sensualité qui les appelle, qui les attire. Donc il y a une espèce d'espace qui, rien que dans son espèce d'animation, peut faire surgir de la fiction.
Cette jeune Suzanne est fascinée par ce groupe, par les voix,
leur
liberté, et elle va enfin passer à l'acte, si je puis dire, et plonger.
Allez,
elle se bat, elle est énervante.
Ma mère, tu es fatigant.
Allez, allez,
allez,
allez,
allez,
allez,
allez,
allez,
allez, allez, allez, allez,
voici le sein.
J'ai pas besoin de regarder en bas. On y va?
Allez, allez, dans la bouche, on va jamais sauter!
Et pousse-la!
Cache-le! Oshala, tu te manges!
C'est quoi cette histoire?
Salope!
Salope!
J'ai vertige.
Allez!
Moi aussi, j'ai des défauts. Allez, ça va bien se passer. Allez, viens, on descend plus bas. Allez, viens.
Allez, allez.
Allez.
Allez, on remonte, on remonte. Ciao, papi. Allez, ciao.
C'est bon, après, tu vas kiffer. On saute ensemble, hein. Respire un bon coup avec moi.
Beaucoup avoir vécu ça, hein, sur le bord d'une falaise ou même d'une piscine ou d'un plongeoir de 10 mètres. Toutes les deux, vous avez déjà plongé de haut?
Il y a très longtemps.
Ouais. Et de
non,
très
mais
haut.
J'ai le vertige en fait. Moi j'ai le vertige, donc j'ai fait le film avec le vertige. Ça a été très 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 compliqué, mais
ah bah oui.
J'y suis quand même arrivée finalement. Donc je comprenais très bien le roman de Maëlys Grangal.
Et Maëlys,
d'accord. Ouais. Pas de super haut, mais je plonge d'assez haut, ouais, quand même.
Il faut dire que ce qu'ils font est absolument dangereux, absolument interdit.
Alors pas du tout comme pas du tout comme
voilà,
les,
c'est ça, non, mais non,
les minots
dans
de la corniche,
film,
que ce
voit,
soit ceux de Marseille. Ça, enfin, d'ailleurs, sont les mêmes ceux du film.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette interdiction, elle est signalée dès le début avec ce personnage de flic Aïssa Maïga, qui leur dit que c'est interdit. D'ailleurs,
mais les passants
c'est interdit pour de vrai.
Demi
Cabrera, c'est interdit pour de vrai, et ça a été un peu tourné en douce. Ces scènes de, faut pas le dire, c'est ça.
Bah, ça, on l'a tourné, voilà, c'est beau.
Non, mais vous deviez avoir les jetons de les voir, de oui. Tourner ça, pardon, d'avoir.
Oui,
peur.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est
mais
vrai,
oui.
C'est vrai. Alors, on a multiplié les conditions de sécurité, hein, bien sûr, des entraînements, un bateau en bas, un homme grenouille, etc. Et puis, c'était. Eux, c'est des virtuoses, hein, qu'on a filmé. Donc, mais bien sûr que j'avais peur. D'ailleurs, le saut le plus haut, j'ai dit à Alain de Maria, qui joue Mehdi, si tu as peur, ne le fais pas. Et puis il a voulu le faire parce que je crois que ce qui était important pour lui, c'était que ses véritables exploits soient dans le film, que le film pour toujours contient ce dont il est le plus fier.
Comme une archive. Un
oui,
peu.
Bien sûr. Et donc il voulait absolument le faire et pas qu'on truc je ne sais quoi. Et donc il l'a fait. Mais d'ailleurs depuis il a plus vraiment envie de sauter d'aussi haut.
Mais c'est drôle parce que votre vertige vous a servi finalement parce que vous le filmez très bien.
Oui,
vous filmez très bien le. C'est aussi important de savoir filmer un plongeon que savoir filmer l'appréhension d'un plongeon.
C'est vrai, oui. Oui, mais le vertige c'est plus général. Hein. C'est-à-dire c'est le vertige de se lancer dans la vie. C'est ouais. Aussi ça ce que raconte le film. C'est-à-dire que Lola, elle a le vertige. Les adultes ont le vertige. Parfois aussi les garçons ont le vertige. D'ailleurs Alain le dit. Hein. Et puis moi j'avais le vertige. Mais je pense que le vertige c'est aussi la peur de l'inconnu, la peur de quelque chose d'extraordinaire qui va vous remplir.
Et que l'on désire aussi.
Et voilà et le désir bien sûr.
Même les flics ont le vertige.
Oui.
Ouais. Maëlys de Kerangal. La fidélité, pour vous, la question ne se pose pas entre un livre et un film, avez-vous dit ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que si l'on souhaite voir son roman adapté pour y retrouver la transcription fidèle et très presque linéaire du livre, d'abord je pense qu'on est forcément déçu, je pense que ça n'existe pas, et puis surtout on se coupe de ce qui est pour moi la richesse d'une adaptation, c'est-à-dire la manière dont un autre artiste se réapproprie et relance l'œuvre dans sa propre subjectivité, dans son propre langage. Et c'est vrai que il y a des déplacements dans ce film, il y en a, mais c'est des déplacements qui, pour moi, montrent à quel point tout ça est assez merveilleux, au sens où il y a cette histoire de magie un peu de la littérature. C'est que le livre, il est jamais le. Enfin, c'est un espèce d'objet commun, mais c'est vrai qu'il est singulier pour chacun.
Il est infini, en fait.
Il est infini,
voilà.
Chacun.
Moi, ce que je ressentais, je sentais que ce livre était une espèce de petite boîte au trésor, en fait, comme un viatique. Auquel je pouvais me référer tout le temps quand j'avais une question. Au fond, j'avais pas une réponse forcément logique, en fait, mais il y avait une pierre précieuse, un coquillage, une façon de dire qui pouvait m'aider à avoir une autre idée, en fait. C'était un espèce de soutien, comme une présence, en fait, ce livre.
Et en même temps,
je me posais pas la question de la fidélité. Mmh. Il faut absolument raconter ceci et cela, mais il était près de moi et c'était précieux parce que Maëlys avait fait le travail d'aller chercher dans la mer, en fait, les pierres précieuses, les coquillages. coquillage, les étoiles de mer, les poulpes, la lumière, et que tout ça, elle l'avait inscrit dans le livre, et que donc moi, je pouvais être aidée en fait par tout ce travail qu'elle avait fait déjà.
Après, je pense que c'est important. Évidemment, quand un cinéaste souhaite adapter un roman, si vous voulez qu'il ait ce que j'appelle l'espèce de manne primitive du livre que l'on, qui soit présente, c'est à partir de ça aussi qu'il va travailler. Là. Donc la question des lieux, par exemple, je me souviens avec Catel Quiliveré, ça avait été un accord qu'on avait passé. Je lui avais dit vraiment, il faut que tu tournes au Havre. Enfin, le Havre, c'est la ville où a lieu le film et où a lieu le livre. Et là, par exemple, bon, en dehors du fait que même la Corniche Kennedy, c'est le nom même de Marseille, etc., pour moi, c'était pas du tout possible. Vous voyez qu'il y a des, par exemple, la question du lieu, avec tout ce qu'elle catalyse comme émotion physique, comme présence des corps, etc., comme récit. C'est important, c'est de la lumière. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je trouve assez, voilà, c'est des espèces de sources très primitives que je trouve qu'il faut, elles doivent être présentes d'une certaine manière. Mais dans le, après, le cinéaste reconstruit. D'abord, c'est pas la même durée, donc le cinéma, c'est l'invention d'une durée comme un livre. Et puis c'est un autre vocabulaire. C'est et Dominique a trouvé plein de choses. J'étais assez émerveillée.
Question subsidiaire, mais ça date de votre rapport avec l'eau.
En fait, j'ai quand même, je dis souvent, c'est un peu mon livre autobiographique. Alors pour autant, j'ai pas grand chose à voir avec les Minots de la Corniche, que ce soit du point de vue sociologique, etc., ou autre. Mais pour autant, j'ai grandi en bord de mer. Quoi. J'ai grandi sur cette espèce de lieu frontière, et en même temps qu'il y a une espèce de seuil comme ça qui vous offre à l'horizon, qui est une forme de corniche, quoi, qui était celle de la Manche. Mais tout de même, grandir sur un rivage, je pense que ça fait une empreinte un peu dans l'imaginaire, dans la façon de se raconter des histoires.
Et comme le premier film de Dominique Cabrera s'appelle L'autre côté de la mer, tout va bien.
Exactement.
Et si on écoutait un troisième extrait entre Aïssa Maïga, la flic, et le jeune Mehdi.
Alors, t'as des projets?
Projets, on en a.
C'est bien. Il y a mieux à faire que de sauter de la corniche ou de bosser pour les dealers.
Où y a mieux? Où y a pas mieux? Qu'est-ce que tu connais à ma vie? Moi, je suis un plongeur. Depuis petit, je fais ça. J'aime défier la... Je sais plus comment on dit. J'aime raser la mort. Regarde-toi, une petite policière. On dirait qu'il n'y a personne devant moi. J'ai éteinte, moi je suis allumé, moi. Je suis à fond, à 2000.
Ça vous fait quoi d'écouter ça, Maïs de Carangal?
Déjà, je trouve que c'est extraordinaire à quel point la bande-son permet à chacun de se faire une image, enfin tellement le son est extraordinaire. Et je trouve aussi que je suis très très émue par la douceur, en fait. Je pense beaucoup à ça depuis le début de l'émission, la douceur d'Alain, en fait.
Oui.
Parce que c'est aussi des figures souvent de la violence, hein, ces jeunes, ouais. Ces figures de la, d'une très dissonante, etc. Et là, la façon dont il s'adresse à cette policière, vous voyez, il y a quelque chose de très, très doux, et je trouve ça, j'aime assez aussi ce regard, alors la plus politique, qui fait que, voilà, c'est un livre, c'est un film où on donne aussi une place. Ouais. Ils ont un plateau, ces jeunes.
Mais finalement, pourquoi la police? C'est-à-dire qu'on aurait pu rester dans... Parce qu'il fallait un péril extérieur? Je vous pose la question à toutes les deux, en fait.
Oui, il y a beaucoup de raisons. Oui, c'était dans le roman. Et puis, quand j'ai travaillé avec tous ces jeunes que j'ai rencontrés, je me suis quand même aperçue que la plupart, pour pas dire tous, avaient eu un frère, un cousin, un voisin, un ami d'amis, obomètre, mort, blessé, c'est-à-dire impliqué d'une manière ou d'une autre dans le crime organisé, ou approché par le crime organisé. Et donc, je voulais inscrire dans le film le fait que c'est dangereux de sauter de la corniche, mais la situation sociale qui est faite à ces jeunes, elle est peut-être plus dangereuse. Donc j'avais besoin de cette ombre de la ville, en fait, qui était dans le roman et qui me convenait, hein, et qui pèse de plus en plus sur eux. C'est pas juste une bulle de liberté, de joie. Bien que la liberté et la joie existent très fort dans le film, mais il me fallait cette ombre de la mort aussi qui plane, hein, parce que les jeunes comme ça sont malheureusement utilisés par la mafia, quoi.
On va conclure...
Et il y a des morts dans le film. Hein.
On va conclure avec cette question, Maïlise de Carangal. Vous avez vu le film et en plus vous l'avez vu à Marseille.
Ah oui, c'était un moment extraordinaire. C'était l'ouverture du FID en juillet dernier. Et bon, c'était, Dominique s'en souvient aussi, une projection incroyable parce qu'il y avait, je crois, 2600 spectateurs. Et surtout, c'était une projection en plein air qui avait lieu sur la corniche. Donc, il y avait une espèce de mise en abîme du film dans son lieu. Et c'était un moment très intense.
C'était la joie, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Au fond, ce qui me reste de ce film, finalement, c'est que la joie de ces jeunes gens a été captée. L'extrait que vous avez passé là tout à l'heure, je suis allumée et tu es éteinte, pour moi c'est le cœur du film.
Ouais.
C'est-à-dire que ils sont dans la vitalité d'avoir 20 ans et d'être dans une certaine liberté et légitimité d'exister en fait, tout en étant dans une situation sociale d'humilier.
Et leur langage et est imagé aussi, dire ça
c'est
de
la poésie. C'est-à-dire qu'il y a une chose que je voudrais dire, c'est-à-dire que leurs paroles sont réfléchies. C'est-à-dire que j'ai pas juste mis un micro, allez-y, improviser. C'est-à-dire que toute cette invention langagière, elle vient d'eux. D'ailleurs, je partage les droits d'auteur des dialogues avec eux. Leur invention, c'est une invention poétique à part entière. C'est pas juste quelque chose qui surgit de nulle part.
C'est bien
ils
de
le pensent.
Petite policière.
Oui, ils le pensent. C'est-à-dire que plonger, c'est penser avec son corps. Parler, c'est penser avec son corps aussi. Et ils sont excellents là-dedans. Ils ont une valeur extraordinaire.
Ça s'appelle Corniche Kennedy. Ça sort mercredi prochain. Un livre.
Courrez sur la Corniche Kennedy.
Maïlise de Carangal et un film réalisé par Dominique Cabrera. Vous restez avec nous et on se retrouve après le disque. Mais avant. Avec vous.
L'après-midi se consume, ceux du cap sont rentrés. Des plaques rouges marquent leur corps, symptômes des plats cuisants. Ils ont les yeux injectés de sang et les lèvres violettes. Le corps sans force, le pas incertain, tellement ils ont sauté, fait des bombes, tellement ils se sont projetés hors d'eux-mêmes, dans la dimension la plus affirmative et la plus concrète qui soit, tellement ils ont cherché à capter la pesée ténue d'une attraction universelle.
With a capital G, ball in the beat. Status Chris Paul or John Wall in the league. Grab a mic till the knuckles will bleed. Cause I believe the potent and I'm potent. Have you geek like speed? If rationale is natural, I will weave. It's all edges and peace. Setting press free on a permanent speed.
I'm in the world where my princess is player. And she feeling my Vader. And my lore grows greater and greater. Pim trails dropping poisonous vapors. Have you shaking like Gator?
Been trill, nigga, prostitute data.
Blu-ray wave, follow up beta. I DVR for later. Cop a massa with a G to my waiter. You can't define. Minus X, Y, Z, it's a generational elitist. Happy cheating, virtual think pieces.
See these written words with poetical science. Brains defiant, thoughts heavy, baby. They're a major appliance. Leave a tad when dropping to flyness through a giant. Dude's nice, he tight screwed in with some pliers. Cool with some buyers, yeah, nigga, cool with some growers.
Never know tattletales, only I don't know us. Yeah, show me generation, show us what you gon' show us. So listen, mommy, CV, could collude with a boy. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dude's rude and as useless as coins. Shoot them, boys. Versed and rehearsed in the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick, Cole. Gatekeepers afloat. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. One hit and reading pages of Poe. Telly is low. Cuddle bunny ready to go. Day of the dead.
bury all the zombies instead.
And it's just your aftermath, bust a cut in your dreads.
Bruce Lee and niggas, Ryo niggas, UFC. Smoke trio niggas, sizzle out your USB.
Surge pricing on these Ubers, I'ma get me a cab.
The weird Jerome be at.
Vibing on impeccable grass, I be in my seat waiting for that law to pass.
That shit, been waiting for a Jets title since last. Richard Todd, Todd Bowles, gangrene on that ass.
Magic Mike on the mic, David Blaine, Douglas Henning.
In the church of Busta Rhymes, it's my sermon you get it. Horizontal spitting, I'm the exorcist of your witness. Don't interrupt me, nigga. Sorry, that's a sin unforgiven. Like how we be skipping on beats like cooking crack in the kitchen.
Just start the package, dry it, bag up the wet. This Mad City's not a game, easy, quiet on set. Fire
student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a trend, I swept up in a phase. You still the highest of commodity grades. And you can get it, get it, get it, get it, get it today.
Laurent, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a marché ce premier mercredi dans les sorties
Eh bien, en tête du podium, c'est Mademoiselle Dalida. Et puis ensuite, La Grande Muraille. Et enfin, La Mécanique de l'Ombre, dont nous vous parlions la semaine dernière.
Eh bien, nous, on va commencer par The Birth of a Nation, de Ned Parker. 30 ans avant la guerre de sécession, Ned Turner est un esclave cultivé et un prédicateur très écouté. Son propriétaire, Samuel Turner, qui connaît les difficultés financières, accepte une offre visant à utiliser les talents de prêcheur de Nat pour assujettir des esclaves indisciplinés après avoir été témoin des atrocités commises à l'encontre de ses camarades opprimés et en avoir lui-même souffert avec son épouse. Nat conçoit un plan qui peut conduire son peuple vers la liberté. Une politiquement correcte attitude nous conduirait à dire c'est bien de raconter cette histoire-là de l'Amérique au moment où encore et toujours les Afro-Américains souffrent de tant d'injustices. Raconter encore et encore cette grande blessure de l'Amérique, ce trauma, sauf que la vision de Ned Parker ne vient que confirmer ce qui a déjà été dit et fait, Laurent.
Oui, le film pourrait, d'ailleurs devrait s'appeler Renaissance d'une nation, parce que on voit bien le but, c'est laver en quelque sorte l'affront fait par Griffith à l'histoire américaine en donnant la parole et en donnant le beau rôle au Ku Klux Klan, comme c'était dans son film du début du cinéma Naissance d'une nation. Alors de ce point de vue là, bon, évidemment, c'est comme vous le dites, c'est plein de bonnes intentions. D'une part, c'est un peu trafiqué aussi l'histoire officielle, qui est moins jolie que ce que, entre guillemets, que ce que raconte, quant à la révolte des esclaves, que raconte le film. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, tant de bons sentiments pour dire quelque chose, pour raconter les choses avec lesquelles forcément on est d'accord, c'est un problème. Quant aux images pieuses et à une musique absolument abominable, on est bien loin de Béatrice Thiérier, hélas, ça ne confère au film vraiment une lourdeur incroyable.
Ouvert la nuit d'Edouard Baer, voilà enfin le film qui ressemble tellement à son auteur. Aucun autre cinéaste n'aurait pu à ce point représenter tout ce qu'on aime chez Edouard Baer. Sa fausse légèreté, son vrai charme, ses lâchetés parfois, son amour réel de ce monde des artistes, ses marabouts de ficelle, drôle, poétique, raté, réussi dans un Paris nocturne, une vraie liberté, un peu comme s'il l'avait tourné en direct devant nous, improvisant comme il sait si bien le faire.
Oui,
ouais.
Non mais c'est d'accord, c'est le pape de l'impro, c'est le roi de
c'est
roi
pas
de
du
la
cinéma,
phrase.
C'est son cinéma.
Oui, d'accord, mais justement, l'antithèse du cinéma, de l'improvisation, c'est bien le cinéma. Donc c'est là où quand même pour moi, il y a un petit problème avec Edouard Baer depuis le début. Là, il s'est associé avec un scénariste, un vrai scénariste entre guillemets. Donc le film est plus sur des rails. Je ne suis pas certain qu'il soit au meilleur de lui-même. En tous les cas, par contre, ce qu'il sait faire, comme tous les comédiens qui font des films, c'est diriger les acteurs, et on citera lui-même évidemment, mais Galabru, dernier rôle extraordinaire, et Audrey Tautou, qui depuis le biopic raté sur Cousteau, s'affirme de plus en plus comme une bonne actrice. C'est nouveau, mais c'est bien. Bon, ça s'appelle Ouvert la nuit d'Edouard Baer.
Et Sabrina Ouazani.
C'est vrai aussi.
Non, c'est absolument délicieux. Comme dit Poulvord, quand on lui demande qu'est-ce que vous prenez à l'apéritif, il dit du Edouard Baer, c'est comme du champagne, c'est exactement ça. The Fitz de Anna Rose Holmer, ex-documentariste, mais on le reste... toute sa vie documentariste, même quand on fait des fictions. Elle est américaine, elle raconte l'histoire de Tony, 11 ans, qui s'entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. Elle découvre qu'à l'étage au-dessus, un groupe de filles apprennent une variante très physique du hip-hop, le drill. Attirée par leur énergie, leur force, leur assurance, Tony abandonne peu à peu la boxe pour la danse. Sélectionné à Sundance, ce film où il a créé la surprise, et à Deauville, où il a obtenu le prix de la critique, c'est vrai que l'introspection sur l'adolescence est assez réussie. Ses ressentis, ses transformations, son regard sur le monde adulte, son corps qui change, tout cela est dans le film. C'est lorsqu'elle veut aborder, Laurent, un thème un peu plus compliqué sur la maladie dont sont atteintes certaines adultes, justement, que le film devient inutilement abscon et limite prétentieux.
Oui, oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire, métaphoriquement, ça ne marche pas du tout. Alors qu'il y a des belles scènes, il y a du cinéma, oui. il y a une scène, il y a un plan séquence où elle s'auto-apprend une chorégraphie sur un pont qui est extraordinairement bien faite. C'est sûr. Effectivement, le propos est alourdi par ces métaphores de lourdes.
Voilà. Et même sa copine qui ressemble à un petit élastique et qui traverse le plan, ça aussi, c'est une extrêmement belle scène.
On est d'accord.
Dalida de Lisa Azuelos. J'avoue, j'aimais beaucoup Dalida, la femme, cette blessure vivante que l'on ne retrouve pas dans ce film, lisse, consciencieux et même consensuel dans l'esprit, téléguidé par le frère Orlando, même s'il ne sonne pas toujours le beau rôle, Laurent. Les événements s'enchaînent, déceptions, amoureuses, suicides, sans qu'on en soit véritablement ému. Et en dehors de la mise en scène, je crois que cette impression vient aussi de l'interprétation de l'actrice Sveva Alviti, qui fait de son mieux, mais le mieux est l'ennemi du bien et surtout l'ennemi du crédible. Comment peut-on encore, en 2016, faire un film sur une chanteuse sans choisir une actrice qui chante vraiment, même si c'est Dalida et même si c'est ultra connu?
Oui, c'est un vrai souci. Il y a déjà eu un téléfilm de Joyce Buñuel sur Dalida. Est-ce qu'il fallait en faire un second au cinéma? Moi, j'en suis pas sûr. D'autant plus que Orlando est toujours là. Il était producteur du téléfilm, il est co-scénariste du second. C'est un peu comme si on demandait à Marie-France Garraud d'écrire un scénario sur Chirac. Mais enfin bon, écoutez, ça, chacun fait bien comme il veut. L'ensemble est d'une banalité affligeante. C'est-à-dire que quand Dalida se tape un petit jeune, ben évidemment, on enchaîne sur la chanson Il venait d'avoir 18 ans. Enfin, c'est une façon de faire des biopics qui datent d'il y a 50 ans. On ferait mieux de revoir le Saint-Laurent de Bonello pour savoir ce que c'est vraiment un biopic intéressant.
D'ailleurs, Born to be Blue, un autre de Robert Budrow avec Ethan Hawke. Un autre biopic tout aussi classique dans sa forme que le précédent, quoique. Cette fois, c'est sur Chet Baker, le légendaire trompettiste de jazz des années 60, musicien blessé lui aussi par la vie. Sauf que là, le montage est un peu plus malin. Construit autour d'un tournage de film, prétexte à remonter et à redescendre le temps. Montage avec rupture de ton, ellipse et surtout un montage qui alterne la vraie vie et la vie racontée dans le film. C'est malin et surtout c'est cinématographique. Harmonium de Koji Fukada, drame japonais, une sorte de théorème japonais d'ailleurs, le théorème de Pasolini, je veux le dire.
C'est plus sombre que le précédent film de Fukada qui s'appelait Au revoir l'été, que moi j'ai beaucoup aimé, et qui en sens était plus réussi que celui-là. Alors c'est vrai que celui-là est plus sombre, c'est vrai que il y a une histoire, il y a une lente montée d'angoisse, il y a une vraie capacité à raconter effectivement les ambiguïtés des rapports de plus en plus troubles au sein de cette famille confrontée avec cet intrus. Il y a un subtil mélange de réalisme, d'effroi, ça fonctionne, mais hélas, il va pas jusqu'au bout de cette angoisse latente et de cette complexité.
Ça s'appelle Harmonium. Oui. On va passer absolument à toute vitesse sur Last Face de Sean Penn. C'est ridicule, c'est obscène, c'est un nanar. Comment son intelligence a pu être diluée dans tant de bêtises?
C'était la grande question de Cannes l'an dernier.
Ouais, en compète. Entre les frontières de Avi Mograbi et Chen Allen qui partent à la rencontre de demandeurs d'asile africain que l'État d'Israël retient dans un camp en plein désert du Negev, par le biais d'un atelier inspiré du théâtre de l'opprimé, ils interrogent le statut de réfugié. Belle et profonde interrogation et pourtant jeu de rôle, de mon point de vue, artificiel et pas du tout convaincant. Et Dieu sait que j'aime le travail d'Avi Mograbi qui est un très grand documentariste israélien.
Ouais, j'aurais moins de réserve, moi, parce que quand même, cette alliance permanente qu'il fait entre le théâtre, le cinéma, la psychanalyse et la politique, moi, je trouve que ça marche toujours, avec effectivement des choses plus ou moins réussies. C'est pas forcément ce qui est le plus réussi, de sa carrière cinématographique, ce Entre les frontières, mais c'est quand même gonflé, quoi. Il arrive, y compris à faire venir des citoyens israéliens, à les faire jouer avec des Soudanais ou des Érythréens sur leur propre douleur, sur leur propre combat, sur leur propre statut d'exclu. C'est quand même gonflé, quoi.
Et on finit parce qu'on a des cadeaux à donner quand même. C'est vrai. À nos invités par la Grande Muraille, Zhang Yimou, le retour avec un Américain, Matt Damon, qui qui est un mercenaire emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille en Chine. C'est quoi cette histoire?
Oui, bah, à force de vouloir faire du gringue au public chinois et international, bah, on fait ça. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose. Pour Zhang Yimou, on reverra plutôt Le Secret des Poignards Volants, ce pur chef-d'œuvre.
On va commencer par un cadeau pour Maëlys de Carangal.
Oui, on va vous offrir des documentaires de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Dominique Cabrera. 6 films de Dominique Cabrera. Ça s'appelle Il était une fois la banlieue. Ça vient de sortir. Je vous lis ce que disait un certain Chris Marker sur la documentariste en question. Certains cinéastes ont la grâce, on leur pardonne un certain laisser-aller. D'autres ont la méthode, on leur pardonne une certaine lourdeur. Ici, rien n'a pardonné, tout a admiré. C'est Chris Marker qui dit. Et ça, c'est paru au documentaire sur grand écran. Enfin, ça paraît exactement le DVD le 25 janvier avec un livret. Voilà.
Alors,
oui, c'est chouette, je ne l'ai pas encore vu. Moi.
Oui, mais alors ici, là, on a tout en scoop.
Vous avez le pain qui sort du four. C'est chouette, c'est super. Merci.
Maëlys de Carangal, dimanche dernier au Luxor, vous avez présenté un film que j'adore et que je vais offrir à Dominique Cabrera, même si elle l'a vu, c'est My Architect. C'est mon architecte, mon père, ce héros de l'architecture, l'américain Louis Kahn, dont l'un des enfants, parce qu'il a eu 3 enfants de 3 femmes différentes dans la même ville, Chicago, aucune d'entre elles ne se connaissait, 3 vies amoureuses parallèles, et ce fils devenu documentariste va partir à la recherche de ce père à travers le monde et jusqu'en Inde pour voir de près et toucher les édifices. Louis Kahn a conçu un voyage psychanalytique, sensuel, filial pour se réapproprier ce père, un grand document, Maëlys de Carangal, ce film.
Ouais, c'est absolument poignant.
C'est colossal.
C'est un chef-d'œuvre.
Bon, ben voilà. C'est fait.
C'est dit.
Eh bien, voilà. C'est écrasant, Dominique Cabrera. Et merci beaucoup. Votre film Corniche Kennedy sort mercredi prochain, votre 5e ou 7e fiction. On ne sait plus avec tous ces documentaires et tout. Merci, Maëlys de Carangal. Je sais que vous êtes très rare dans les médias. Merci de nous avoir accordé votre présence. Et générique va se faire avec vous deux. Je vous fais signe, Dominique et Maëlys.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des écrivains.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Wenfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Dominique Cabrera, j'y étais.
Et moi, Maëlys de Carangal, j'y étais.